Cube Radio.
Bon, Richard, il faut se dire les vraies affaires. On a commencé ce balado, ça s'appelait « Devine qui vient souper ». C'était chez nous, puis on soupait. Et après ça est arrivée la pandémie, on n'avait pas le droit de recevoir les gens chez nous. Donc, on a fait ça en studio, mais c'était encore un souper. Après, il y a eu le couvre-feu. Fait que là, on n'a plus le droit de faire des soupers. Donc, on est rendu à faire ça le midi pour respecter les mesures sanitaires dans un local aseptisé à Cube Radio. Mais l'esprit n'a pas changé.
On s'éloigne du concept de plus en plus.
Non, parce
bientôt,
que le concept...
Bientôt, ça va être le petit déjeuner.
Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner. Non, mais on préfère ça, un petit déjeuner au lit.
Je chante pas trop
avec...
parce que là, on parle.
Ouais, je le sais. Je sais que t'aimes pas ça quand je chante, puis notre fils non plus.
Si on avait un chien, il ferait « Aouh! »
quand t'es vraiment pas gentil. Mais l'esprit reste. Et l'esprit, c'est de dire, de rencontrer des gens et de partager de la nourriture. C'est toujours du petit poulet. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment drôle parce que c'est l'humoriste Alex Perron. Et le, je sais pas comment l'appeler, journaliste, auteur, chroniqueur, animateur, Jean-Michel Dufault.
Alex Perron, qui se faisait appeler le FIF.
Dans le temps des mecs comiques.
À l'époque, ça se faisait appeler le FIF.
Oui, le FIF.
Et écoute, c'est une autre époque en maudit.
Et Jean-Michel Dufault, qui a déjà co-animé à TQS une émission qui s'appelait Testostérone. Alors,
ah ouais.
Je trouve que c'est drôle parce que dans les deux cas, c'est des affaires qu'on pourrait plus dire aujourd'hui. T'imagines une émission qui s'appellerait Testostérone en 2021?
C'est entre autres avec Marc Boilard, je crois, qui était dans Testostérone.
Autant appeler ça, avec François Massicotte, autant appeler ça masculinité toxique. Tu sais, réglons les affaires dès le départ. Puis, ben, je veux dire, dans le cas d'Alex Perron, même si lui-même se qualifiait de fif, tu pourrais plus faire ça aujourd'hui. Mais ce que je trouve surtout amusant, c'est qu'en lisant sur les deux, je me suis rendu compte d'un lien qui est entre les deux qui est peut-être pas apparent quand tu regardes ça comme ça. C'est que Jean-Michel, il est un diplômé de l'École nationale de l'humour. Il est sorti de là en 1986.
Il voulait être quoi? Il voulait être comique?
Non, mais il a étudié pour écrire. Donc, écriture humoristique. Donc, c'est assez spécial. Il avait fait des cours de sciences politiques. Tu sais, quand on pense à Jean-Michel, c'est toujours journaliste sérieux.
Et pauvre Jean-Michel, parce que c'est un grand voyageur. D'ailleurs, il a son propre blog sur ses voyages et tout ça. Il a fait le tour du monde, je sais pas trop combien de fois. Et là, ben, il est comme groundé. Comme, tu sais, il était à Montréal, il est pogné, il doit, je sais pas comment il vit ça. Parce que lui, il faut qu'il parte, il faut qu'il prenne l'avion régulièrement.
Tu sais, toi et moi, on aime ça voyager, mais on ne gagne pas notre vie en parlant de voyage. Si tu gagnes ta vie en parlant de voyage et qu'il n'y a pas un seul avion qui part, c'est pas juste que ça te manque de voyager, c'est que aussi comment tu fais pour gagner ta vie là, quand tout ta marque de commerce, c'est les voyages. Mais la même chose pour Alex Perron, tu sais, quand ton métier, ta passion, c'est de monter sur scène, puis que là, il faut que tu fasses des spectacles d'humour devant des chars.
Mais, ça va être le fun.
Ah! Écoute, la livraison du petit poulet. Attends, ça doit être ça. Attends, on va voir.
Okay.
Oui, allô?
Bonjour, madame. Vous êtes...
Oui, c'est moi-même.
Oui, c'est moi, mais c'est toi.
Oui, ben c'est parce que vous avez dit « s'il vous plaît ». Puis là, j'ai quasiment entendu « s'il vous poulet ». Bon, en tout cas, c'est mon essai de faire des petites blagues. Bon, ben alors, je vais descendre, aller chercher le poulet, monsieur, on arrive.
Le poulet est là!
Hey, toi, Richard, on peut-tu le dire officiellement à la radio à quel point on était cœurés de la pandémie? Tu sais, on fait des blagues depuis le début en se disant « est-ce que notre couple va survivre? » Mais on était cœurés.
Je me cherche tellement quelque chose à faire, je m'ennuie tellement, je me fais tellement chier que là, je suis en train de penser que peut-être que je pourrais peut-être aller voir Illumi. Écoute, un endroit là, qui a l'air d'un go light bright avec des lumières, là. J'étais hier sur le site de Illumi en disant « ben, je vais-tu aller voir ça? » Habituellement, ça me passera 25 000 pieds par-dessus la tête. Mais là, je me dis, bof, regarde, on va aller voir des lumières. C'est correct, là. Ça va être au moins...
Viens-t'en dans le char, on s'en va regarder des lumières.
Illumé.
On est prêt à n'importe quoi.
Je suis rendu là, là. Je me demande quoi faire exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire, mais ça, on peut pas durer ça longtemps comme ça tout le temps. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus.
Parle-moi pas de ça.
On mange du poulet.
Ouais.
Jean-Michel est arrivé, il portait deux masques.
Ouais.
Avant que ça soit la mode, là, avant, ça fait longtemps que tu fais ça?
Depuis l'automne, puis c'est drôle parce que je suis à TVA Sport, puis souvent, les gars se moquaient de moi, deux masques, ils me regardaient deux masques, puis comme je disais, cette semaine, le CDC aux États-Unis a conseillé deux masques, on a les nouveaux variants.
Le Center for Disease Control.
Ça serait peut-être pas une mauvaise chose d'avoir deux masques, mais...
Mais t'avais lu ça quelque part.
Oui, mais c'est aussi qu'au niveau pratique, c'est parce que ceux-là, je les change rapidement. Puis celui de tissu, ben je peux le garder plus longtemps parce qu'il est protégé par l'autre. C'est un peu comme ça que je le vois. T'as raison, faut faire attention quand on le manipule. Mais celui-là, je le change très régulièrement, 2-3 par jour. Puis celui de tissu, ben au moins, t'sais, il peut faire la journée, une autre journée.
Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu portes deux condoms l'un par-dessus l'autre? Moi, non. C'est ça que
non.
Je veux savoir.
Non.
Et pour avoir des confidences de vous deux ce midi...
Non.
Je
non.
vous propose un verre de vin. Allez-vous prendre de l'alcool, Alex, Jean-Michel?
Moi, j'avais commandé mon petit coke diète,
mais...
Allons-y!
Allons-y! Alors, c'est-tu quoi? Faut que tu te lèves. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ben oui, tes mains sont propres. Parce que
oui, je me suis lavé, Jean-Michel, deux fois.
Non, moi, je suis plate, mais là, je m'en vante pas. Fait que respectez-moi pour ça, mais je fais le fameux défi 26 jours.
Moi, je te respecte pas.
J'en parle pas. Et là, aujourd'hui, c'est mon excuse.
OK, donc, le 1er mars, tu vas te saouler la gueule, ben
non, je vais me saouler la gueule, mais je pas. C'est vraiment... C'est de la coquetterie, là, je l'avoue, là.
Bon.
C'est dans le sens que, tu sais, j'ai pris une année, je suis parti une année de septembre 2018 à septembre 2019. Je suis allé 7 mois en Asie. J'ai changé mon alimentation. Je buvais moins d'alcool parce que j'ai perdu entre 10 et 15 livres, OK?
Sans faire d'effort. Okay.
Là, je reviens ici. Là, je peux plus faire de sport. Je bois, tu sais, au chalet, je bois de l'alcool. Je bouge moins, puis là, ben, c'est ça, je trouvais que je me laissais aller un peu, donc je me suis dit, je vais essayer d'être discipliné ce mois-ci.
Mais moi,
et je trouve ça dur.
Ben moi, je trouve ça extraordinaire, honnête, puis je l'ai écrit là, quand ça a commencé le 1er février. Je trouve ça extraordinaire parce que, je dis, Chris, des défis depuis un an, c'est juste ça qu'on a. Pourquoi vous vous imposez encore en plus?
J'aurais pu prendre une carte, tu sais, la carte cadeau, là, que genre, on passe...
Tellement passé un free pass, là,
on peut pas voir des gens, on peut pas sortir, il y a pas de cinéma, il y a pas de théâtre. Si en plus tu m'enlèves de l'alcool, donne-moi un gun loadé.
Moi, je suis team Alex, parce que je ne comprends pas à quel point, tu sais, je veux dire, il reste vraiment pas grand chose. Vous deux, là, vous avez vraiment choisi les domaines porteur d'avenir. C'est toi, Jean-Michel, fan de voyage. T'as bâti toute ta carrière sur les voyages. Bravo, champion. Puis toi, Alex, monter sur scène. On peut plus monter sur scène. Bravo, champion, toi aussi.
Oui, bravo.
Là.
Heureusement, on peut se guidouner ailleurs. Mais, puis même...
Tu parles-tu d'aujourd'hui ou tu parles de quoi?
Au sens large, mais... Puis moi, j'ai essayé... tu sais, les versions... on fait des numéros d'humour via le virtuel, tout ça. Écoute, tant mieux s'il y en a qui trouvent du plaisir, mais moi, c'est moins 1000. Moins 1000.
L'as-tu fait devant des chars? Mario Tessier a fait un show devant des autos.
Quand on m'a expliqué ça, on m'a appelé, on m'a expliqué, j'ai fait comme, hey, je suis désolé, mais...
Non.
Puis sans aucune prétention, dire comme, hey, moi, je sais pas comment je pourrais m'adresser. Tu sais, l'humour, ce qui te carbure, tu carbures au rire, c'est le rire qui donne le rythme.
Le rythme, c'est ça, t'as tellement raison.
Des chars qui klaxonnent, c'est bien sympathique, là, mais...
Quand t'es rendu à faire des pipes dans des autos, là... Change de job.
Puis même dans le virtuel, tu sais, t'as des gens qui sont assis dans le salon, d'autres à la cuisine, il y a un chien
c'est
qui
pas
passe,
pareil.
Il y a quelqu'un. Puis on dirait qu'aussi, comme les gens sont chez eux, ça dédouane tellement tout que un moment donné, tu vois, il est parti, il s'est levé. Ah, il est plus là. Oh. Tu sais, t'as quelqu'un qui regarde son téléphone.
Il n'y a aucun décorum, c'est ça.
Fait que moi, j'ai rayé ça assez rapidement. Tu sais, animer une soirée, oui.
Ouais, mais même si ça signifie une perte de salaire, parce que tu aurais pu dire, bon, ben moi, je veux absolument continuer à gagner ma vie, donc je vais prendre tout ce que vous m'offrez, je vais le prendre.
Oui.
Donc, c'est une honnêteté par rapport à toi-même aussi de dire, non, ce contrat-là, je le prendrai pas.
Ah non, exactement, mais aussi de dire, je serais pas bon. Tu sais, j'ai pas de plaisir. Comment veux-tu que j'arrive à en donner aux gens qui me regardent? Ouais. Si moi-même, je suis comme, hey, je suis assis dans mon bureau, dans mon coin salon, ça marche pas.
Mais il faut se réinventer.
Et quand tu m'enlèves les mots de la bouche, ce maudit mot-là de notre ministre de la Culture que je suis
Nathalie Roy qu'on salue ici,
oui,
on lève notre verre.
On sait pas trop où est-ce qu'elle est parce qu'elle apparaît puis elle disparaît rapidement. Mais
on est-tu écœuré d'entendre ce mot-là, se réinventer.
Ouais, se réinventer, là. Puis on parle de nos jobs, mais c'est la même chose pour les restaurateurs, n'importe qui. C'est réinventé, là, pour moi, c'est quand toi, tu décides à un moment donné, tu fais
ben
comme,
oui.
Hey, m'a rebrassé à la cage.
Ben oui.
Puis comment je peux... Là, c'est pas ça, là.
Non.
C'est, on est en mode urgence, survie. On se réinvente pas. On trouve des solutions pour faire rouler la machine. Ça n'a rien à voir.
On amortit le choc, mais il reste qu'on est... On est passé du 17e étage au 3e étage.
Oui.
Puis on se dit, jusqu'ici, tout va bien.
Oui, c'est ça.
Toi, ton dernier voyage, ça date de quand?
Ça date d'il y a un an.
Ah ouais?
Ouais, j'ai pas voyagé.
Ça doit te démanger au bout?
Oui. Je trouve ça dur, j'avais ce genre d'équilibre-là, mais au moins, j'ai la chance d'avoir un petit chalet, ce qui fait que je vais à la campagne, dans la Naudière, puis ça change le mal de place.
Bangkok, la Naudière, même combat.
Mais, ouais, je trouve ça dur, puis je sais pas quand je vais voyager. Je sais pas quand je vais repartir, là, tu sais, c'est pas...
Mais personne le sait.
Moi, j'avais deux bonnes... J'avais une belle année jusqu'à la pandémie, tu sais, j'avais TVA Sport, donc j'étais dans le sport, j'étais content, puis j'étais dans le voyage avec Gros Voyage Québec, mon contenu, tout ça.
Ouais.
Et en mars, les deux jobs, ça s'est terminé. Donc, puis aussi, le sport, c'était pas la meilleure chose parce que, tu sais, la saison de hockey a terminé, en tout cas, jusqu'à l'été. Là, ça a recommencé, mais tu sais, il n'y a pas de public, c'est un peu spécial.
Non.
Fait que, sans dire que je me suis réinventé, tu sais, j'ai un âge 55 ans, fait que, tu sais, j'ai d'autres petits projets à côté, mais non, c'est pas facile. C'est pas facile.
C'est pas évident.
Ouais,
mais peut-être que tu pourrais mettre à profit ton un de tes diplômes, parce que toi, t'as fait l'école comme Alex.
C'est vrai.
Et t'as fait l'École nationale de l'humour.
Ouais, t'as raison.
Et j'ai retrouvé... Attends, je vais montrer ça à Alex.
Ah ben, moi, je la vois régulièrement parce que j'enseigne à l'école, donc je croise ce visage.
Alors, c'est ta photo de diplômé, écoute, avec
90.
Le mortier sur la tête, ouais. Le petit diplôme, puis t'as... Excuse-moi, t'as une face de fraîchier un peu.
Oui, c'est vrai.
Je peux te dire gentiment, Jean-Michel,
ben
là.
Non, ben non.
Oui, c'est un petit peu... Je m'appelle Jean-Michel
Dufault,
and you're not.
Oui, je le faisais un peu en blague là, quand je parle la photo que j'ai.
C'était vraiment les débuts de l'école.
Et c'était la première année qui s'est... Moi, j'ai fait le truc scripteur, j'ai pas fait...
Et
c'était la première année scripteur.
Okay.
Parce qu'en 87, c'était la première année de l'école.
Ouais, c'est ça.
Et en 90, c'était la première fois qu'il y avait une section scripteur. Puis ça, je trouvais ça intéressant. C'était imparfait, mais j'ai eu des bons profs. Je me rappelle, j'ai eu Pierre Huet, que j'avais beaucoup aimé. C'était intéressant quand même, comme... Tu sais, on avait des ateliers, tout ça. Inégal, le cours, parce que justement, il se faisait un peu, tu sais, c'était version 1.0, là. Mais je trouvais ça intéressant. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelques années, il y a deux, trois ans, j'ai fait un atelier d'écriture aussi à l'école. Puis ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose peut-être dans les prochaines années. Là, je suis sur quelques petits projets, mais dans un ou deux ans, j'aimerais peut-être me remettre à la fiction avec une équipe de scripteurs. J'ai un peu une idée dans la tête, mais là, j'arrête ici, là. Et ça n'a pas de lien avec se réinventer, mais c'est juste que ça, il y a deux, trois ans, quand je me suis remis à écrire avec un... Mais je serais prêt à le faire seul, tu sais, j'aimerais ça travailler avec une salle de scripteurs.
Un pôle de scripteurs.
Ouais. Et puis, j'ai un peu une idée derrière la table, un plan, là, mais c'est quelque chose peut-être dans quelques années que j'aimerais faire.
Mais il reste que les voyages, tu peux pas imaginer... que tu reprendras plus jamais l'avion.
Non.
Ça, ce serait comme te
non.
couper
dans,
les veines.
Dans, je suis un peu dans le wishful thinking, comme on dit en anglais. Peut-être à l'automne, dans le quatrième quart de cette année, j'ai peut-être l'impression qu'on va recommencer tranquillement à voyager, je ne sais pas, octobre, novembre, décembre peut-être, puis dans un an, hiver 2022, j'ai l'impression que les choses vont changer, mais je ne me vois pas voyager avant l'automne. En tout cas, loin. Je me vois pas prendre l'avion avant l'automne, ça, c'est certain. Puis si l'été ressemble un peu à l'été dernier, je me dis, ben, peut-être le Québec ou le Canada. Mais, tu sais, j'aimerais même aller dans les Maritimes. Je connais pas super bien les Maritimes. Ma mère vient de là. J'aimerais ça aller en Nouvelle-Écosse, tu sais, faire le Cabot Trail, tout ça. Mais je sais pas si on va pouvoir parce que les provinces bulles, les protégées, je sais pas. Fait que...
Mais c'était drôle parce que l'été dernier, il y a plein de gens, évidemment, on pouvait pas voyager, donc plein de gens ont comme découvert le Québec. Mmh. Là, ils se promenaient dans Charlevoix en disant « Mon Dieu, c'est exactement la même chose que d'aller en Toscane. Not! » On fait beaucoup de blagues sur la pandémie, puis bon, vous êtes tous les deux soit directement ou indirectement dans l'humour, mais Moi, je trouve qu'il y a des affaires qu'on dit pas de la pandémie. C'est triste. C'est une période, c'est dur.
Ben oui.
C'est psychologiquement, je trouve ça effrayant. Tu sais, toi, tu trouves pas ça dur, Alex?
Ah, ben oui. Puis je trouve que particulièrement, parce qu'au printemps, on avait encore la naïveté de pas savoir ce que ça allait être.
Oui. C'est notre raison.
Notre première version de pandémie. Mm. Puis on arrivait vers l'été. Fait que déjà, on se disait, ah, au moins, il va faire beau, tout ça. Là, on savait dans quoi on se rembarquait avant les fêtes. On est en plein hiver. Écoute, tant mieux si aller prendre une marche à moins 30, tu trouves ça extraordinaire. Moi, j'y trouve un peu moins mon compte. Moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, mon gym est fermé. Pour moi, le gym, c'est un exutoire qui me manque énormément. Tu sais, ça vraiment beaucoup. J'ai essayé de courir à l'extérieur, ça a marché un bout. Là, le fret a recommencé. Je me suis pété deux fois le genou sans la glace. J'ai fait comme, non, c'est pas ça. En arrière de chez nous, oui, j'ai un beau boisé, puis c'est cool. Là, je peux le faire les yeux fermés tellement que je l'ai.
Ouais.
À un moment donné, oui, tu trouves des autres façons, mais c'est pas ça la vie.
Non, c'est pas ça la vie.
Puis je comprends qu'à 8 heures, le couvre... Mais il y a une direction qui t'est donnée, qui t'oblige à quelque chose, qui coupe souvent l'herbe sous le pied, tu sais. Il y a plein d'affaires. Moi, je suis comme tout le temps, je suis un peu bipolaire en ce moment dans le sens où... des fois, je suis comme, OK, c'est correct, on y va, on fonce.
Ouais.
Puis cinq minutes après, je suis en tabarnak.
Ouais.
Tu sais,
ouais.
Mais solide.
Mais c'est important
là.
De le dire, ah, tu vois.
Mais ça,
ouais.
On réussit même en temps de pandémie à s'imposer d'être totalement positif.
Mais et moi, ça, je me gosse.
Ouais. La pression d'être toujours... Je comprends qu'il faut l'aide, puis je comprends que c'est comme ça qu'on va s'aider à passer à travers.
Mais au début, là, quand on voyait, là, ça va bien aller avec les crises de cancer.
Mais tout ça...
Je vais déchirer, moi.
Mais tu sais, on a
toi, t'es grognon tout le temps.
Non,
toi.
Mais
avant la pandémie, t'étais grognon.
Ça a juste accentué. Non, mais il faut se donner le droit d'avoir des frustrations puis d'être capable de les dire sans.
Ouais. C'est super important.
Puis comme si, parce qu'on disait qu'on est frustré, on est en désaccord avec les règles. Ça n'a pas rapport. C'est juste qu'on les subit, qu'on les vit, puis qu'on a le droit d'être en positif.
La tyrannie de la bonne humeur, elle est là avant
très
la pandémie aussi.
C'est ça.
Avant la pandémie. Moi, je suis toujours étonné de comment. Même les shows de radio là, du matin, mettons, la bonne humeur forcée, le rire forcé. On est donc de bonne humeur, on rit donc, on est donc fou. Je suis comme la tyrannie de la bonne humeur, c'est pas la vraie vie.
Mais c'est vrai.
Je sais pas comment expliquer ça, mais là, t'as raison que c'est encore plus frappant. Mais juste pour continuer, moi j'ai été vraiment dur moralement là, justement entre avril et septembre.
Oui.
Parce que là, le classique, là, tu sais, j'avais pas de job.
Oui.
Puis, j'étais pas efficace. Justement, quelqu'un aurait pu dire, ah, tu sais, développe des projets, sois proactif.
Mm-hmm.
Moi, non. Puis, c'est drôle, à un moment donné, un soir, j'étais au chalet, je me sentais comme à l'école. Puis, quand j'étais jeune, j'étais allé dans une école alternative. Puis, ça a pas marché du tout pour moi. Qui était l'école Nouvelle-Kerbe. C'était le modèle Summerhill britannique. Mm-hmm. On importait la première école au Québec, genre, qu'on faisait ce modèle-là.
Libres enfants de
Summerhill.
Et moi, ça marchait pas du tout. C'est-à-dire, moi, il faut vraiment encadrer. Il faut que ça soit clair, qu'il y a un horaire. Si je suis laissé à moi-même, je suis procrastiné, je suis pas efficace. J'angoissais. Qu'est-ce qui va se passer? J'étais zéro efficace. Et ce qui me sauve, c'est qu'heureusement, en octobre, j'ai recommencé à travailler. Et justement, le fait d'avoir un horaire, de dire, tous les jours, je dois être à TVA Sport à telle heure, je dois préparer dans la journée, ça fait un énorme bonheur. Puis je me considère très chanceux d'avoir ce petit boulot-là que j'aime.
Oui.
Est-ce que vous soupçonniez, avant la pandémie, qu'il y avait autant de gens niaiseux?
Moi, j'ai une vision très négative de l'être humain. Moi, j'ai toujours en général, on est assez mauvais, là. Tu sais, je veux dire, on se donne des airs vertueux, mais on est mauvais. On l'échappe à tous les niveaux.
Oui, on peut l'échapper.
On l'échappe à bien des niveaux. Il y a quelques petits gestes dans la vie qui rassurent, là, qui réconcilier avec la race humaine, mais sinon, en général, là, non.
Tu sais, des complotistes, des gens qui ne croient pas à la science, des gens qui vont danser, carreau lavage, sans masque.
Ça me fait mal. Ça me fait mal, ça me rentre dedans.
Moi, je pense...
Le monde qui se plaint de ça, tu te plains de porter ça? Je peux pas croire. Arrêtez de me dire que c'est si difficile. Oui, c'est gossant un peu, mais si c'est ça la seule affaire que dans ta vie, on t'aura demandé de faire, t'as pas connu de guerre, t'as pas la famine, t'as un toit, t'as pas une bombe qui tombe sur toi.
Les gens manifestent.
Les gens manifestent. Hey, je capote, je souffre, j'ai mal.
Toi, Alex,
je
toi,
capote.
Alex.
Moi, je suis plus optimiste que Jean-Michel.
Je m'excuse.
Non, c'est correct. Mais par contre, ce qui m'a frappé, par exemple, si je regarde, mettons, mes réseaux sociaux, tu sais, c'est pas tous des amis proches, naturellement. Mais il y a des connaissances où je me suis dit, Mais voyons donc, à quel moment cette personne-là a dérapé, qui est devenue ce, je vais dire complotiste, là, parce que
pour résumer.
Exact. Puis j'ai fait comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est. Puis là, tu sais, tu dis, ah, ben, je vais lui donner une chance, tu sais. Puis là, tu lis autre chose, comme, ben, voyons donc, je vous donne un exemple bien, bien, bien concret. José Turmel, à Québec, avec qui j'ai travaillé quand même.
Qui est rendu, là.
Quelques années, tu sais.
Elle est porte-parole quasiment du mouvement.
Exact. Ah, ouais. Maintenant, tu m'aurais dit, fais-moi une liste. Elle aurait pas été dedans, là.
Non.
Jamais de la vie. Puis c'est correct. C'est son. Mais je voyais défiler ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je vais devoir l'enlever parce que, un, ça correspond pas à ce que moi je pense. Ouais. Puis je veux pas lire ça. Je veux pas aller jusque-là. Je veux pas voir ça. Mais ça, ça m'a frappé à quel point, des fois, des gens autour de moi.
Ouais, ouais.
J'ai fait comme, OK. Je l'aurais pas mis sur ma liste de ah oui, cette personne-là, ça va chirer un peu. Puis des fois, chirer solide. Je suis sûr que vous en avez aussi. Ça, ouais. Ça m'a fait un peu peur, puis mal aussi. Ouais. Dans le sens où j'avais comme ah ouais, tu sais, c'est ça.
Ça te faisait de la peine que mais c'était pas la personne sens, que tu pensais que c'était.
Oui, puis de dire aussi comme ah ouais, tu penses vraiment qu'il y a un complot diabolique.
Ouais.
Puis je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez l'été dernier. À Baie-Saint-Paul, le café qui s'est fait attaquer pour son logo.
Le logo. Ça,
naturellement, tu touches à mon Charlevoix, je monte au front tout de suite.
Donc, les gens pensaient que c'était un endroit où il y avait des messes sataniques
pédophiles.
En fait, à cause du logo.
C'est ça, qu'on disait lié au trafic d'enfants et sataniques. Puis là, ils disaient, le café est situé dans une vieille maison, deux étages. Alors, les gens disaient, au premier étage, il y a le café, puis au deuxième, c'est là que ça se passe. Puis là, tu dis... Y a-tu vraiment des gens qui pensent que dans Charlevoix, dans une mais, écoute, une grosse non, mais un gros village.
Oui, mais c'est pas drôle,
c'est
là.
Pas drôle. Non, c'est pas drôle.
Parce que cette commission-là, ce monsieur-là, là, il y a, vraiment y a, eu des menaces.
Semaines, il s'est ennuyé de ça et de refaire son logo en ciment.
Ben, qu'est-ce que t'en penses?
Mais tu dis, toi,
mais c'est des gens qui étaient fragiles psychologiquement, puis avec la pandémie, c'est dur,
c'est
puis ils ont basculé.
C'est sûr.
Je pense qu'il y a ça. Puis la fameuse pyramide à l'envers aussi. Je dis, c'est plate de blâmer l'Internet, mais la pyramide à l'envers, là, je suis pas sûr que c'est finalement la meilleure chose au monde. En tout cas, il y a ses limites au bienfait de que tout le monde peut avoir une voix, que tout le monde peut transmettre l'information, que tout le monde peut fabriquer un site web.
Mais explique, c'est quoi la pyramide à l'envers?
Ben, c'est-à-dire, avant, c'était en haut, mettons, l'information. L'élite exactement, qui comme un triangle, donne au peuple. Maintenant, le peuple en bas a accès à tous les moyens de communication. Dans le fond, d'en haut, tu sais, on peut avec partir un site web, une caméra, filmer, écrire. Donc, on peut partir d'en bas puis monter vers le haut. Mais je veux dire, ça a ses limites parce que quand tu vois la propagation des fake news et tout ça. Mais juste pour revenir à ce que tu dis.
Ouais, vas-y.
Le blâme, je le mets, par contre, je le mets sur tout le monde, y compris moi, mais je veux dire, sur nos gouvernements et sur nous aussi. Tu sais, je veux dire, il y a plein de citoyens qui font pas leur job. Il y en a qui la font, mais il y en a qui la font pas. Alors, justement, désobéissance, à pas croire, à aller danser dans un centre d'achat. Tu sais, je veux dire, quelle idée. Mais nos gouvernements aussi, c'est un big fail de la plupart des gouvernements de la planète, y compris le nôtre. Tu sais, j'ai vu sur Frontline à PBS le truc sur la Chine, le début de la pandémie en Chine. Les Chinois ont pas tout dit. Tu sais, je veux dire,
ils ont caché des trucs, ils ont menti, ils ont menti, ils ont menti,
ils ont pas dit tout à l'OMS, ils ont pas dit tout aux autres pays. Ils avaient plus de cas, ils ont laissé partir les trucs. Ça a pas aidé. Une fois que l'Occident s'est rendu compte de la gravité de la situation, il était trop tard. Les gens étaient déjà, le virus était déjà chez nous. Aux États-Unis, tu sais, on avait parlé à ton émission Totally Under Control, qui est un documentaire qui montre comment l'administration Trump a échappé la balle.
Ouais.
Au Québec, hey, tu sais, comment on l'a échappé au début. T'sais, moi, je pense que ça mérite une commission d'enquête. Il y a tellement d'étapes, là, le masque, comment le vaccin, tout, l'information, les trucs contradictoires du début, mais t'es pas un masque. Quelle erreur de dire ça au début. Quelle erreur. Puis de faire un peu un show avec ça, alors que non.
Il y a eu plein d'incohérences.
Hein, et puis ça, je pense qu'il faut qu'ils se regardent. Puis tu sais, il y avait la question de l'accessibilité des masques. Il n'y avait pas assez de masques. Mais au lieu de dire la vérité, « Ah non, c'est pas important. »
C'est pour ça qu'il disait de ne pas porter le masque, parce qu'il savait qu'il en manquait.
Mais c'est ça, exactement. C'est ça le point. Mais c'est qu'on n'était pas prêt à faire face à tout ça. Puis je suis d'accord avec toi, il y a plein d'incohérences, il y a plein d'erreurs. Puis je les excuse pas. Mais en même temps, je disais, Christian, on n'avait jamais vécu ça, tu sais, dans le sens où...
Ça, c'est vrai.
Tu sais, c'est pas comme si tu fais comme, ah oui, ça va ressembler à il y a 4 ans, puis là, on réalignons-nous.
À leur défense.
Là, tout le monde, tu sais, à un moment donné, tu fais comme... Puis aussi, on n'a pas le système fait pour que, puis on l'a vu plusieurs fois, que l'information transige, mais qui arrive à un point central. On n'a pas ça.
Ouais.
Tout le monde va chercher un peu d'infos aussi. Ouais. Appelle-moi. Non, appelle-la. Elle avant ma place. Il y a mal fait parce que y a trop de pions sur le jeu. Tu sais, ils ont envoyé là, une équipe en Chine deux premières semaines en quarantaine. Il n'y avait pas le droit de sortir les deux premières semaines. Ouais. Il reste deux semaines là-dessus. On leur avait prévu des visites de musées, des belles rencontres, ça. Elles sont pas là pour ça. Elles sont pas là pour essayer de déterminer si c'est sorti d'un laboratoire. Non, mais c'est vraiment un pangolin qui a refilé ça.
C'est ça. Dans le truc de Frontline, c'est vraiment supposément marché humide de Wuhan, là, que les wet markets, là, où il y a des animaux, puis les règles de salubrité, c'est zéro.
Puis en plus, le laboratoire est situé à côté du plus gros
marché.
C'est
pour ça qu'il y a des gens qui disent, est-ce que... Puis moi, je veux pas rentrer là-dedans dans la conspiration, mais je suis un peu d'accord que c'est quand même bizarre ce début de truc et des dates.
Parce qu'il y a un gars qui regardait un pangolin en salivant. Depuis ce temps-là, on est tous dans le marge.
Mais basé, comment c'est absurde aussi, si c'est vrai que c'est un pangolin qui a donné ça à un être humain et que là, toute la planète est affectée.
Mais c'est l'effet papillon.
Ouais, ça prouve à quel point on est encore plus fragile qu'on pense.
Ben, c'est ça. On est fragile. On n'est rien.
Mais tu sais, tu dis, j'espère qu'on va tirer les leçons puis pour la prochaine, on va être préparé. Regarde, après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit plus jamais ça, plus jamais ça. Au moment où on se parle, il y a 1 million de personnes dans des camps de concentration
en Chine.
T'as raison.
En Chine, on fait rien, on le sait, les caméras sont là, on fait rien, ils sont dans des camps de concentration. On n'apprend pas.
Non, on n'apprend pas.
Moi, ce que j'aime bien de cette conversation, Jean-Michel, c'est que plein de gens qui peut-être te connaissent pas ou connaissent simplement le Jean-Michel Voyage puis Jean-Michel Sport, c'est que t'es un, parmi les personnes que je connais avec mon chum, qui est toujours en train de lire des essais, de regarder des documentaires, de se renseigner, de... T'es comme un intellectuel dans l'espèce de microcosme médiatique québécois. Puis, je pense que des fois, c'est peut-être un côté de toi que tu veux pas trop que les gens voient.
Ben, pas tant, mais je pense pas que... Ben, tu vois, je suis curieux. J'aime ça me renseigner, j'aime ça lire, j'aime ça voir des documentaires, beaucoup. Je pense que de plus en plus, je vais peut-être prendre un peu cette voie-là, plus de confiance en moi. Je pense que il y a aussi un lien avec la confiance en soi. Puis c'est quand même des sujets plus sérieux. Tu sais, je veux pas aller comme on dit, au bad side, super bien préparé parce qu'il faut faire attention. Puis justement, si je débat avec quelqu'un ou tout ça. Donc, c'est plus, c'est pas que je veux pas le montrer, mais il y a peut-être un côté manque de confiance en moi par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que c'est drôle que tu dis ça parce que des fois, je repensais à mes études et puis là, je suis dans cinquantaine avec un peu la fin de ma vie, là, mais j'ai appelé la troisième période. J'appelle la troisième période. C'est la troisième période de ma vie. Là, je viens d'avoir 55 ans, je capote.
Ben oui, ben calme-toi. Moi, j'en ai 55, puis lui, on a 59.
J'ai 60 cet été. C'est vrai?
Oui.
On est perdu dans les années, hein.
Au moins 60.
T'es né en 61?
Ouais.
Juste un indice, Richard, t'as vraiment les cheveux blancs. C'est juste un indice.
Mais dans ton cœur, tu sens comment?
En jeune, vraiment, j'ai 35.
28, là.
Mais 55, c'est dur, hein?
Oui, oui, je trouve ça dur. Ben, moi, la cinquantaine, je trouve ça dur.
Ah oui, c'est dur.
Moi, je vais avoir 50 en avril.
Ah oui?
Quarantaine, j'ai vraiment été en maudit. 45 ans, c'était mieux. Puis 50, ça me dérange zéro.
Ah ben, ça, tout le monde est différent, hein? C'est drôle, hein?
On dirait un peu, c'est ça, dans ma tête, je me sens un peu au sommet de mon biorhythme.
C'est bien dit,
mais t'as raison que le biorhythme, c'est vraiment... Avec ta numérologie ou non?
Ah non, juste dans ma tête. Je me suis aligné mes chakras moi-même.
Okay, tu peux vérifier que t'as des...
Mais c'est ta vaste expérience de coach de vie amoureuse.
Probablement que c'est
sûrement ça qui est
faux positif.
Mais c'est intéressant parce que moi, tu vois, trentaine, quarantaine, rien. Rien, mais cinquantaine, oui. Le 5-0, le chiffre. Je pense aussi que c'est un moment travail, vie, où je suis. Le 5-0... Je l'ai trouvé dur, puis là, mais je suis dedans un peu, mais... puis là, 55, mais tu sais, comme le cliché de notre jeunesse, liberté 55, je suis comme, mais niaises-tu? Tu sais, c'est comme...
Mais surtout quand tu regardes ton compte de réa, puis tu dis, prendre ma retraite,
ça sera pas cette année.
La vie coûte trop cher. Mais tu sais, George Harrison, des Beatles, c'était dans le fond, on a le même âge toute notre vie, c'est notre corps qui change.
Mais c'est vrai.
C'est un peu vrai, tu sais, c'est un peu vrai. On a un âge.
Oui, je comprends qu'à un moment donné, ton corps suit aussi, mais il y a une grande part, je pense, des fois, dans notre tête aussi. Ou des fois, on s'impose aussi certaines limites, parce qu'on est rendu, on est supposé être rendu là à cet âge-là. Comment on le fait? C'est plus une question de comment on se sent, puis comment on a envie d'aborder la suite aussi. Je pense que c'est là.
Mais pour les filles, c'est peut-être plus dur.
Vous êtes en train de dire que en m'en venant ici, avant de partir de la maison, j'aurais pas dû me mettre du spray dans les cheveux pour enlever mes cheveux gris? Ah, ben, j'aurais dû les assumer et les garder à
non,
apparence.
Non, ça, tu peux. En fait, c'est là où je dis, si toi, t'as envie de les avoir gris, go! Ouais. Si t'as envie de mettre un spray pour les camoufler, go aussi.
D'assumer.
Ben,
non,
c'est parfait.
Je les assume
mais
pas
c'est
du
correct.
Tout.
C'est correct aussi. Ouais. Eh ouais.
Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, ben il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête. Par pure vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
Alex, je sais que c'est un cliché, mais on a des amis gays, puis c'est mm-hmm. pas si un cliché que
t'es
ça.
Gay?
Que pour les gays, il y a quand même une obligation d'avoir un corps parfait ou d'avoir un corps musclé.
Oui, ça,
il y a
ça souvent. Ouais.
Il y a une pression qui est beaucoup plus grande sur vos épaules que chez les hétéros. Est-ce que je me trompe?
Oh, non, tout à fait, c'est sûr. Puis même dès le jeune âge, dès la fin de l'adolescence. En fait, j'imagine qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on l'est, vient cette pression-là aussi. Puis c'est ce qu'on nous, c'est un peu le même, je vais dire, problème entre guillemets que ce qu'on retrouve sur les revues féminines avec les mannequins très très minces puis tout ça.
Ouais.
Parce que si tu regardes, mettons prenons le FUC, qui est probablement la revue la plus populaire au Québec en lien avec l'homosexualité. On a rarement vu un gras souillé sur la page couverture.
Mais les gays, c'est comme le hockey, t'as différents clubs.
C'est
un bear.
T'as raison.
C'est un bear, il aime les gars bedonnants, poilus.
Mais sauf que c'est le même problème dans le sens où il y a quand même des directives, des patterns à respecter, même si t'es un bear.
Même
t'sais.
Si t'es un bear.
Oui,
faut qu'il y ait un peu...
C'est ça, si t'as pas de poils sur les épaules, t'as déjà 2 points de moins. C'est comme...
Ceux qui ont les cheveux gris, ils appellent les...
C'est les daddies.
Les daddies.
Oh, daddy.
Toi, Richard, daddy full.
Full daddy, comme moi,
je pense qu'il serait populaire auprès de la communauté gay, Richard.
Assurément.
Ah, ouais.
Non, assurément.
Bon, mais si jamais je te quitte à un moment donné, Richard.
Ben ouais.
Écoute, je te parle de ça,
faut
Alex, aussi,
d'esprit.
Parce que on a reçu à cette même émission, il y a quelques semaines de ça, quelques mois, Jean-François, avec qui tu étais dans les mecs comiques. Et écoute, il y a passé 10 minutes. À nous dire toute l'admiration qu'il avait pour toi. Pour la raison suivante, il dit, il y a plein de gens dans le milieu, soit médiatique, soit culturel, ils attendent que leur carrière soit établie, puis qu'ils soient connus et reconnus. Puis là, ils font leur sortie de placard, alors que toi, t'as commencé. Et il dit, ça lui a pas servi.
Oh oui.
C'est-à-dire qu'il en a payé le prix. Il a raison, Jean-François?
Pas tout à fait. Moi, c'est un vase communicant dans le sens où probablement que ça m'a fermé des portes. Je serais bien naïf de penser l'inverse, mais ça m'en a ouvert en maudit aussi.
Ah oui?
Ben oui. Encore aujourd'hui, quand on vient me chercher pour un contrat, puis que ce soit à l'écriture, devant la caméra, on vient chercher un peu ça aussi. Mais on te le dira jamais clairement comme ça, autant quand on te dit non. Il y a toujours une autre raison.
C'est quoi, on coche une case, on dit « bon, mais c'est correct qu'on a un gay dans l'équipe? »
En ce moment, peut-être que c'est ça la mode. On est beaucoup dans remplir le quota de diversité. Non, je pense pas. Puis même encore aujourd'hui, si on prend, mettons, l'humour de base, là, t'sais, du stand-up et tout ça, j'ai très peu de concurrence encore dans
C'est vrai.
C'est vrai.
Effectivement. Dans ta niche. Donc, tu vas toujours rester...
Dans mes étudiants, ça fait 5 ans que j'enseigne à l'École nationale de l'humour. Il y en a 2. Mais je veux dire, ça fait 25
c'est
ans.
Vrai.
Je
vois.
C'est fou, hein?
Comment ça se fait que personne n'a pris le flambeau?
Mais tant mieux, t'as comme le monopole du créneau de l'humoriste gay.
Mais je pense que ça m'a surtout plus servi que lui.
Mais c'est intéressant que tu dises, mais j'ai quand même une question, puis c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que t'as jamais fait de coming out, que t'as toujours été ce que tu es.
Oui,
est-ce que c'est ça?
Je suis parti avec ça, en fait.
Parce que tu as été accepté dans ta famille facilement, tu t'es jamais posé la question. Est-ce que tu t'es posé la question en commençant le métier en disant est-ce que je dois affirmer, pas affirmer, être discret? C'était quoi ta relation?
C'est tellement bizarre comment ça s'est passé. Dans ma famille, là, j'avais déjà un oncle puis une tante qui étaient gays et lesbiennes. Fait que dans ma famille, il y a juste quelque chose où tout le monde s'en foutait totalement. Ils apportaient leur conjoint à Noël. C'était quelque chose de très, très, très établi dans ma famille. Moi, au niveau du coming out, là, j'ai pas connu de difficultés. Okay. Ça s'est rapidement tassé. Puis moi, j'ai beaucoup de caractère.
On n'avait pas remarqué.
Puis moi, j'étais prêt à ce que tu m'acceptes pas, ben on n'est pas fait pour être des amis. Ça se peut pas. Tu sais, va-t'en. C'est pas grave. Ça sera quelqu'un d'autre. Puis quand t'es pour le travail, c'est drôle parce que j'étais à l'école. Puis naturellement, déjà à l'école, tu sais, on fait un numéro à chaque vendredi. Fait que moi, c'était déjà, je parlais de chum, tout ça dans les stand-up, tout ça. Puis pas loin de la fin de l'école, Louise Richer, la directrice. Un moment donné, dans une discussion, elle me dit « Hey, qu'est-ce que tu vas faire en sortant de l'école? Est-ce que tu y vas à fond la caisse? Je suis gay. » Puis là, j'ai fait comme « Hey, j'ai pas réfléchi à ça. »
C'est sérieux.
La question se posait même pas.
Mais c'est intéressant.
Exactement.
C'est intéressant. Ouais.
Mais en même temps, là, je me suis mis à y réfléchir. Parce que je me disais, ça a une incidence sur le reste. En même temps, je me voyais pas faire un stand-up en disant « Hey, ma blonde, puis moi, hier, personne n'y aurait cru. Moi, le premier. » Puis l'humour, c'est ça. C'est cette fragilité-là. Personne n'aurait embarqué. Fait qu'on dirait que ça a été comme une fausse question dans le sens où je me voyais pas faire autrement. Puis moi, j'avais pas envie de ces fausses discussions-là. Tu sais, on fait un métier extraordinaire, mais on a une vie à travers ça.
Ouais.
Si aller au restaurant devient un enjeu, si aller au cinéma devient un enjeu, parce que tout à coup, qu'on me voit avec un gars, t'es obligé de me justifier. Hey, moi, j'avais pas envie d'être ça, là.
Ouais.
Au-delà de la job extraordinaire qu'on fait, on a toujours bien une vie.
Ouais.
Fait que, puis, la vie étant bien faite, je me suis mixé en groupe avec deux hétérosexuels. Voilà.
Qui, eux, étaient, donc, pour rappeler, étaient à l'école avec toi
cette
année-là. C'est
mais ça, on
c'est
se connaissait ça. Pas avant l'école.
C'est
intéressant.
Le FIF.
Oui, mais Louis, c'est le macho.
Non, mais tu brandissais, est-ce que tu...
Au départ, oui, parce qu'on avait notre place à faire. Après ça s'est beaucoup nuancé.
Le FIF aujourd'hui serait impossible.
Malheureusement, oui.
Mais c'est plate, ça.
C'est très
malheureusement.
Mais non, mais ben, c'est-à-dire qu'il pourrait, mais pas... Il faudrait pas l'appeler de ce nom-là.
Mais moi,
c'est ça, peut-être.
Ouais,
il pourrait, mais pas...
Je sais pas. Que ce soit le LGBTQ plus 2.
Ouais, tu vois, ça, j'aurais de la misère.
Non, malheureusement qu'on dit plus FIF.
Moi, ça me dérange pas. Sais-tu pourquoi ça me dérange pas? Parce que on donne la force aux mots. Si moi que tu me dises fif, ça me dérange pas, ça vient de s'arrêter là.
Ça, j'aime ton attitude.
Tu n'as plus cette emprise-là sur moi.
Ça, j'aime
le mot
ton
qui commence par un F.
Même, exactement.
Mais c'est intéressant que tu dises ça.
Mais si je le prends comme une attaque, eh bien là, tu viens de m'attaquer, tu viens de m'ouvrir le flanc, tu viens de me blesser. Si je te dis, hey, dis-le, ça me dérange pas. Ça vient de s'arrêter là. Pour moi, c'est plus
mais
ça.
Mais il faudrait valoriser ça en général, en plus, dans notre société, parce qu'il y a trop de gens qui sont bien offensés par quelque chose. Puis tu dis, attends, c'est à toi de décider si t'es affecté ou non affecté par ça.
Puis je comprends que, tu sais, on n'a pas à en abuser, puis dans certains contextes, ça s'y prête pas. Mais si tu penses que tu vas m'attaquer avec ça, lève-toi de bonne heure, puis trouve-toi une autre raison.
De toute façon, ça dépend toujours de ce qu'on met avant le mot.
Mais exactement.
Si on dit le mot qui commence par un N, et que on met maudit devant, ben c'est la même chose que si on dit fif.
Ah, tout à fait.
Puis qu'on dit maudit fif, c'est pas la même chose.
Exactement, t'as tout
alors,
à fait
c'est
raison.
Alors, c'est l'intention et le nom.
Exactement.
Le mot lui-même, il y a tout ce qui vient. Mais donc, tu toutes les affaires de lobby puis de droit des LGBTQ plus 2,
non, mais
quand ça fait partie d'un mouvement, peut-être que ça t'achale un peu?
Ben, en fait, moi, je pars du principe. Puis encore là, j'ai peut-être cette naïveté-là. Puis là, je parle de gay, puis ça s'adresse à bien des affaires. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va réussir à trouver cette égalité-là, ce qu'on veut dans le partage, et non pas en disant... Tu sais, tu peux pas demander d'être égal à tout le monde, puis en plus revendiquer un statut spécial. Tu peux pas dire « Acceptez-moi, mais dites-moi pas ça, faites-moi pas ça. »
C'est intéressant.
Que vous... Ça marche pas à partir de là. Ça, on peut pas avancer comme ça. Moi, je pense que le vrai moment où on va décider que tout le monde est égaux, c'est quand on va tout se mélanger. Tu sais, encore au printemps, là, je voyais, on avait vu là, une histoire, là, un chef cuisinier qui s'était approprié peu de cuisine japonaise. Tu sais, mais oui, mais c'est ça la beauté de la chose,
voilà.
C'est de mélanger les affaires, la culture avec un C majuscule. Quand on arrivera à faire comme, hey, j'ai pris un petit bout de toi, c'est comme si j'allais dire à un Asiatique, Et que je te voie mettre une ceinture fléchée pendant le carnaval, toi, ouais. ça t'appartient
pas. Mais tu vois,
pas.
Là, tu vois, ouais. Alex,
ça marche pas.
Ça, c'est une question de génération. On a tous plus ou moins la même génération. Nous autres,
mais
on
c'est
était...
toi clairement le plus vieux.
Nous autres, on était dans le mélange et tout ça. Nous autres, on était, faut détruire les ghettos puis tout ça. Puis la jeune génération, au contraire, ils construisent les murs qu'on a sacrés en terre.
C'est vrai.
Ouais. Ils continuent. Ouais. On les a sacrés en terre, ça a pris du temps, puis on était contents. Puis eux autres, ils prennent les pierres, puis ils refont d'autres murs.
T'es oui, là, parce que nous, on disait, il faut arrêter de mettre des étiquettes.
Oui!
Les étiquettes, c'est vilain. Puis on a l'impression que la nouvelle génération, c'est au contraire, je revendique mon étiquette. Et non seulement ça, mais parfois, je peux avoir plusieurs étiquettes.
Exactement.
Fait que, tu sais, tout le principe du féminisme intersectionnel, c'est ça, c'est de dire, je suis pas juste... je me bats pas juste pour les droits des femmes, je me bats pour les droits des femmes noires, handicapées, autochtones, enfin, tu sais.
Puis, tu sais, on va trouver le milieu quand on va faire chacun un pas. Là, j'ai l'impression que des fois, on recule beaucoup chacun de notre bord. Mmh. Ça se peut pas. Là.
Ouais. C'est, tout le monde brandit un drapeau. C'est
exactement.
Un peu,
Toi, tu faisais testostérone?
Oui. OK, il n'existerait plus maintenant. Qu'on ne pourrait pas faire non plus. Voilà. Il y a 20 ans.
C'est ça, 20 ans. Il y aurait de l'avocat.
Il y a seulement 20 ans.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, explique c'était quoi testostérone.
C'était quatre gars. C'était l'idée à la base de François Mascotte, l'humoriste, qui disait, je trouve que la télé se féminise. Il n'y a pas de show de gars au Québec. Être un vrai gars au Québec, ce n'est pas valorisé. Ça serait fun d'avoir un show de gars. Il y avait eu, je pense qu'il y avait The Man Show aux États-Unis, un peu ce style-là. T'sais, show un peu colon. Par moment, mais moi, je dis, on riait... Quand tu regardes l'émission, on riait plus des gars que des filles, à vrai dire.
Ben oui.
Mais il y avait un côté... quatre gars parlent d'affaires de gars. Il y avait pas de gays. C'était très gars.
Mais
bon,
c'est quoi
par moment. Mais c'est drôle parce que moi, je me rappelle qu'il y avait des Français... Ma soeur allouait son appartement à des Français. Des Français, ils trippaient. Eux, ils aimaient vraiment ça, puis ils voyaient pas le problème. Mais ici, c'est, chez les bien-pensants, ça n'a pas passé. Donc, il y avait Mike Ward, Marc Boilard, moi et François Mascotte. Donc, c'est ça, c'était un show. 2 ans, ça a duré 2 ans devant
quand
le public.
Même.
Mais c'est vrai que ça a mal vieilli parce que c'est un peu colon. Mais c'est drôle parce que même l'autre fois, j'écoutais Louis des affaires quand il faisait son macho dans votre show. Puis on passait des extraits à la radio. Puis tu voyais aussi que c'était un peu décalé avec maintenant.
Quand on diffusait notre émission à Sketch à Prise 2, il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'en regardais quelques-uns, j'ai fait comme « Oh! » Il reste, de nos 2 saisons, il resterait pas beaucoup d'épisodes aujourd'hui.
Mais est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose?
C'est une mauvaise chose parce que à partir du, tu sais, oui, faut encadrer, oui, faut mettre des limites, puis oui, faut être dans toujours penser à ce qu'on veut dire, puis comment on l'écrit, puis comment on veut l'aborder. Mais à chaque fois que on se questionne à tout le temps aux 3 mots, puis qu'il faut faire passer notre texte sous les yeux de 6 avocats pour être sûr qu'il y a pas anguille sur roche, c'est comme eh boy, il y a plusieurs couches sur un pauvre texte.
T'as raison, c'est plate parce qu'à un moment donné, on a tellement peur de froisser une personne qu'on fait plus rien. On va rien dire, on va rien faire. Tu sais, sinon, il y a tout le temps quelqu'un
froissé. Il y a un avertissement avant la petite vie.
Ça n'a aucun sens. Plus que ça, avant Watatatao à Uni. C'est écrit plusieurs épisodes qui disent certains propos dans cet épisode pourraient vous choquer, soyez bien avertis.
Mais est-ce que ça veut dire que toi, tu fais attention?
Je devrais faire plus.
Mais on a donné trop de pouvoir aux gens qui sont choqués. C'est ça le problème. C'est qu'on donne trop de pouvoir aux gens qui sont choqués pour dénier. Comme tu dis, ça revient à ce que tu dis. T'as la force comme être humain. Comme je dis, si je marche dans la rue, puis quelqu'un me donne un coup de batte de baseball dans la face, puis mon crâne est fracturé. Là, tu sais, j'ai beau lire Mathieu Ricard, puis faire du bouddhisme et de la méditation. Non, j'ai une blessure, je peux poursuivre la personne. Mais si quelqu'un me traite de nom, c'est à moi de décider, comme tu dis, est-ce que ça m'affecte ou est-ce que j'ai la force de... Puis j'aimerais ça que ça soit valorisé, ça, de dire, par moment, enseigner ça aux gens, au lieu d'être toujours offusqué, puis fâché, puis victime.
Mais
est-ce que tu peux travailler sur toi, puis dire, est-ce que celle-là, je peux la laisser passer? Est-ce que je peux être plus fort que d'après ça?
Je
trouve que c'est pas valorisé, ce que je suis comme
là. Reprenons ton exemple de testostérone. Si ça jouait aujourd'hui, là, si ça me plaît pas, je l'écoute pas. J'ai eu 1 million de propositions. Je peux aller voir du Netflix, aller voir tout TV, illico, peu importe.
Ouais.
Mais pourquoi? Parce que moi, j'aime pas ça.
Ça n'a pas droit d'exister.
Mais, exactement.
C'est un très bon point.
Moi, j'aime pas
Mais t'as raison, mais c'est intéressant. Mais juste finir, t'as sorti, il y a un truc quand même qui c'était quand même intéressant parce qu'on était début des années 2000, puis dans un des pilotes, Guy Latraverse était le producteur. Il y avait une danseuse avec un poteau. Moi, je veux pas dire que parce que je suis le cas d'Outremont, puis ma mère avait la vie en rose qui traînait partout, qui est très féministe. Mais je me rappelle que moi, c'était très mal à l'aise. Je l'avais dit, je dis, je peux pas croire que c'est ça, testostérone. T'sais, pour moi, ça va pas à sa place. C'est pas drôle. C'est quétaine. C'est racoleur.
Puis ça,
je me souviens pas, je ne regarde pas. Mais je me souviens que moi, ça m'avait gossé. Tu sais, j'étais comme, c'est pas là qu'on va aller. On peut rire des gars, on peut être macho, on peut rire de nos défauts, on peut rire des filles, on peut rire de nous. Tu sais, Mike, ça a été vraiment le truc que lancé Mike aussi, Mike était vraiment très drôle là-dedans, puis assumait, il a toujours assumé, toujours le courage des opinions, tout ça. Mais je me rappelle que cette affaire-là, moi, je me disais, non, ça n'a pas rapport. Puis je me souviens, j'avais même dit, en tout cas, je vous dis une chose, les gars, quand il y aura l'hommage à la traverse aux Gémeaux, il y aura pas cet extrait-là. Parce que ça va pas passer, puis ils vont pas le mettre dans son affaire, parce qu'ils sont pas fiers de ça.
Mais ce qui est drôle, c'est que t'as commencé quand Richard t'a demandé de présenter testostérone à des gens qui ont pas connu cette époque-là. T'as commencé en disant, on était une gang de gars et on trouvait que,
la télé
était très féminisée.
Ouais.
Écoute, imagine. Dire ça aujourd'hui, il y a trop de femmes à la télé.
Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Mais lui, il trouvait qu'il y avait beaucoup de choses. Les débuts, je pense, Canal Vie, il y avait beaucoup de shows. Il n'y a pas de show vraiment pour les gars. Puis c'est pas faux complètement quand. C'est-à-dire un show go-go-go, là.
Oui, mettons, mais regarde, aujourd'hui, il y a eu l'émission Les Mecs.
Oui, t'as raison.
Bon, qui n'était pas Les Mecs comiques, qui était juste Les Mecs à Radio-Canada. Puis quand ils ont annoncé qu'il y aurait cette émission-là, qui parlait de quatre gars, des amis, des quatre...
Ils
étaient pas tous blancs, il y en avait un personnage noir. Mais Martine Delvaux, la féministe, a écrit un texte en disant... Quatre gars, on s'en calisse, ça nous intéresse pas leurs histoires. Ils sont partout les gars, ça nous intéresse pas les problèmes de détresse des hommes. Mais voyons.
Non, mais ça, je suis d'accord.
La détresse des femmes, pas de problème. Exact. La détresse des hommes, non.
Ça me fait rire encore plus parce que tu fais, ils annoncent le projet. T'as pas vu l'image encore. Oui.
C'est très dangereux. Faut faire attention. Puis je suis d'accord, moi. Puis pas rien que ça. Faut que les hommes parlent, puis parlent de leurs problèmes, puis de leur dépression. Au niveau de la dépression au Canada, les chiffres, là, c'est beaucoup plus les hommes que les femmes. Ouais. Au niveau des suicides, c'est beaucoup plus les hommes que les femmes. Et ça, c'est pas tant parlé. Il y a beaucoup de détresse chez l'homme, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de, justement, tu sais, et si le dernier argument, malheureusement, de l'homme, c'est le physique, ben c'est là le drame. Alors, laissons-les parler de leurs problèmes et permettons qu'un show comme ça, ça c'est une demi-heure par semaine, puis Jacques David a totalement le droit de présenter ce show-là de quatre gars, c'est complètement légitime.
Ben, un des problèmes avec la culture des gens offusqués, c'est que des gens soient offusqués, des gens qui soient choqués, ça me dérange pas. C'est que les boss, les patrons qui devraient nous protéger, ils plient les genoux. Ouais. Ça prend 3 emails.
T'as raison.
OK, moi, quand je reçois un email signé Bisoun24, je regarde, il est envoyé à 3h du matin. OK, le gars, il est sous.
Une tête d'œuf, un avatar.
Ouais.
Il reçoit des lunettes, là. Et freak. Les directeurs de festivals, les directeurs de programmation, les producteurs, les rédacteurs en chef, tout ça, tout le monde. Moi, c'est ça qui m'écarte.
Ah, tout à fait, je suis d'accord.
Tu veux voir que ces gens-là qui sont puissants, on peur de Christy. Vous avez peur de quoi?
C'est ça.
De quoi?
Vous leur donnez raison. Vous leur donnez raison, puis t'as raison, puis il devrait avoir plus de courage parfois de défendre son équipe et dire, hey, c'est du monde, c'est du petit bruit, là. Tu sais, c'est ça.
Ah, tu vois, attention, t'as fait dire les moustiques.
Ouais, mais là, j'ai dit, les gens vont faire un lien, puis moi, c'était pas d'anciens, là. C'était juste des petites affaires, c'est des petits bruits, là.
Ouais.
Mais t'as vu comment je me suis retenu?
Ouais, tout à fait.
Parce qu'on peut plus rien dire. Non, mais on peut dire de quoi, mais faut assumer, puis faut avoir, c'est ça.
Tu sais, l'exemple de la petite vie, c'est une personne qui a écrit.
C'est fou, hein?
Puis là, ils font, on va mettre un avertissement.
Une personne!
Mais ce qui est terrible, c'est que comme cette affaire-là de la petite vie a été très médiatisée, c'est quoi le message que ça a envoyé à tout le monde derrière son clavier? Hey, les amis!
C'est ça.
Il suffit que vous soyez seule, vous allez pouvoir faire plier le diffuseur public. Alors que si on avait dit, ben, il y a une vague de dénonciation, il y a, écoute, 3000 personnes qui se plaignent, les gens derrière le clavier auraient peut-être pas dit, ben, je vais le faire moi. Alors que là, c'est comme on donne le permis à tout le monde de dire, hey, toi, Joe Blow, dans ton sous-sol,
c'est très dangereux.
Regarde,
c'est très dangereux.
Tu as toi-même le pouvoir de faire plier les diffuseurs. Moi, je trouve que c'est ça qui est
terrible. Je suis d'accord avec toi, Richard. J'aimerais ça des fois que, en tout cas, en haut, il y a plus de.
Écoute, les francs-tireurs, ça a duré 23 ans, les francs-tireurs. Puis à la fin, les dernières années, il fallait faire approuver chacun de nos sujets, chacun de nos invités par en haut Télé-Québec, puis il y a des gens qui ont été refusés, là, on pouvait pas faire telle affaire, on pouvait pas faire telle affaire.
Alors qu'elle devrait être le contraire.
C'est inquiétant.
Alors qu'avec le progrès, ça va être le contraire.
Ben oui.
Plus d'ouverture, plus de dialogue, plus de points de vue.
Oui.
Ça va être ça.
Jean-Michel, tout à l'heure, tu parlais de la tristesse des hommes, puis tu disais c'est important qu'ils puissent s'exprimer, puis je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu m'as fait pleurer parce que pour préparer notre rencontre de petits poulets d'aujourd'hui, j'ai regardé différents trucs que tu avais fait au cours des derniers mois. Et à un moment donné, tu étais avec JC.
Ah ouais.
Et tu as parlé de ton père et du fait que ton père aimait pas le hockey plus que ça, mais qu'il t'accompagnait. Puis je m'excuse, je le vois dans tes yeux, que ça vient de chercher
mais
encore.
Mais c'était vraiment... Juste de remercier JC, qui est d'ailleurs aussi dans l'équipe de Cube. Mais le vendredi, il y a une belle liberté. On peut parler de ce qu'on veut. Puis c'était le show avant Noël. Puis je voulais faire une genre de lettre d'amour. Mon père est décédé en 2008, mais qu'il m'amenait à l'aréna, parce que moi, je suis vraiment un fou de hockey. Puis je le disais, tu sais, avec son Nouvel Observateur puis l'Express, les deux magazines français, un peu de gauche, un peu de droite, il regardait zéro le match.
Mais il était là.
Il était là, puis il m'amenait, puis il se levait tôt, parce qu'il fallait se lever tôt le samedi.
Exact.
Puis que tu sais, moi, j'ai pas eu ça n'a pas toujours été facile avec mon père. J'ai un père très autoritaire, très old school français, mais que je voulais remercier de ça, puis que même, j'aimais même ça qu'il soit pas un parent qui voulait que l'enfant performe. Tu sais, l'enfant, c'était parfait. J'étais là avec mes amis, j'avais du plaisir, puis c'est ça qui est important. Fait que j'ai fait ce petit truc sur le ouais, j'ai eu...
Mais t'étais très ému, puis
ouais,
je me disais...
j'étais ému, ça m'a... Je pense que j'étais encore plus ému en ce temps de pandémie, en cette fin d'année.
Ouais.
C'est vrai, j'étais pas prévu.
On est à fleur de peau.
On est à fleur de peau. J'étais vraiment à fleur de peau, exactement. C'était pas prévu, je pensais pas. Je suis à fleur de peau.
Mais oui, tout à fait.
Mais ça m'a frappé parce que je me disais, c'est extrêmement rare qu'on voit un homme pleurer à la télé quand c'est pas Justin Trudeau qui s'excuse parce que tout le mal que le Canada a fait à toutes les minorités qui existent sur Terre. Mais et là-dessus, c'est comme toi, t'es un gars super sensible, Richard, mais tu le montres pas tout le temps, évidemment, à la télé ou à la radio. Mais cette permission-là de se donner comme homme, tu sais, une fille qui braille, là, tu sais, moi, je braille pendant l'émission, ouais, personne qui va...
Non,
personne va écrire dans le journal,
ça
va se rusher à pleurer,
c'est
là.
Vrai.
Quoi qu'il y a peut-être des gens qui pensent que j'ai pas de cœur,
mais... Je pense qu'il y a aussi un petit peu de progrès à ce niveau-là, quand même. Je trouve quand même que dans la société, il y a un peu plus de progrès, mais il y en a encore à faire. Mais je pense qu'il y en a un peu, quand même, que... Avant, vraiment, l'homme québécois ou l'homme, il pleure pas, c'est un homme.
Ouais.
Prends sur toi, man up. Tu sais l'expression man up? Pense-y, c'est chargé pour l'homme.
Ouais.
C'est beaucoup de pression pour l'homme, là. Man up.
Ouais. Non,
ça veut dire, il faut que tu sois un monde. Ferme ta gueule, pleure pas, chiale pas. T'as pas d'émotion, man up. Fais un job.
L'homme hétérosexuel est pas mal plus malmené. Moi, je voudrais pas être hétérosexuel.
Richard, le dit aussi des fois.
Pourquoi?
Ben, c'est même trop compliqué. On vous demande d'avoir une barbe, mais qui pique pas trop. On veut que vous pleuriez, mais soyez l'homme de la maison pareil. Faites la vaisselle, mais en même temps, soyez capable d'aller enlever un écureuil sur le toit.
Ouais, t'as allé couper du bois en Abitibi aussi.
Tu sais, on veut que tu me prennes de façon virile.
Oui.
Mais fais-moi un gâteau le lendemain. Beaucoup de pression. Ses épaules, moi, je trouve.
J'aime ça que tu dis ça. Moi, je peux pas le dire, mais j'aime que tu dis
moi,
ça.
Moi, je trouve que l'homme hétéro a beaucoup de pression ses épaules.
Oui.
Puis qu'on y en demande pas.
Puis on parle aussi assez gaiement dessus.
Oui, tout à fait, exact.
Oui, ben, Richard, t'en as déjà parlé, ça aussi.
Oui.
C'est une tête de turc, quand même.
Jeannette Bertrand dit la femme demande déchire ma robe cette nuit et recouler
oui,
un petit matin. C'est vraiment c'est très beau, ça.
Puis tu sais, le gars, c'est un peu de misère à se placer par rapport à ça.
C'est vrai.
Si je paye l'addition, t'es un peu heureuse. Mais en même temps, tu disais, je suis capable de payer mon addition. Tu la payes pas, tu fais comme bon, t'es pas capable de m'offrir un sujet comme merde. Qu'est-ce que tu veux?
Il y a les codes, il y a une sorte de positionnement. C'est intéressant. Ouais,
habituellement, Richard, quand il arrive ce genre de situation-là où je lui demande des choses contradictoires, où là, il part contre les femmes, puis là, il dit, bon, mais je pense que je viré gay, ça va être plus simple. Tu vas peut-être l'avoir dans ton équipe, Alex.
C'est deux points, là, aujourd'hui. Les cheveux, ça.
Un autre argument qui m'énerve, puis ça, on l'entend beaucoup dans la pandémie, ça pourrait être pire. Il y a pire que toi. Tu sais, moi, je suis chanceux, là. je suis avec une femme que j'aime, on a un beau condo où je suis.
Vous travaillez? Vous travaillez, ça va bien.
Mais des fois, j'ai des mauvaises journées. Oui, mais il y a des gens, eux autres, qui ont perdu leur job. OK, mon voisin s'est fait couper la jambe, là, mais quand je me cogne l'orteil sur le lit, ça fait mal.
Ah non, moi aussi, ça m'agace.
Même si lui s'est fait couper la jambe, tu comprends-tu?
Ça, ça m'agace quand on compare toujours les choses comme ça. Oui, mais il y a pire. Oui, c'est sûr qu'il y a... Oui, je suis d'accord, mais là, en ce moment... Ça va pas.
Ouais. Moi, c'est mon pire.
Exactement.
Ouais.
Quand on se met à juger le malheur des gens, je fais comme, non, mais t'es pas dans ses souliers.
C'est vrai.
Oui, effectivement, on peut penser à la bombe nucléaire, mais là, en ce moment, lui ou elle se sent dans le chenoute pour X raisons, et c'est correct.
Et c'est correct. Et elle a le droit.
Tellement. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait au début de la discussion. On dirait qu'on a tellement peur de dire qu'on n'est pas bien, qu'on fait non, c'est correct, tout est beau. Non, c'est il y a pire.
Comme
si on était jamais capable de dire, hey, je suis dans marde en ce moment, je suis en tabarnak, puis j'en arrache.
Tu trouves pas, les arc-en-ciel, c'était très forcé.
Ça va bien aller.
Sais-tu quoi, je vais vous... Tu sais, il va peut-être avoir un variant à un moment donné, puis le vaccin ne pognera pas sur ce variant-là. Puis il va falloir trouver un autre vaccin. Puis ça va être comme une deuxième pandémie. Ça peut arriver.
Ah ouais, tout à fait.
C'est pas réglé.
C'est pas réglé.
Rappelle-toi quand on a dit que ça va être vraiment le fun quand le vaccin va arriver. Le vaccin est arrivé, il n'est pas distribué. Il y a peu de pourcents de la population qui a été vaccinée. Puis c'est pas clair, notre année n'est pas claire. Là.
C'est loin d'être clair.
Mais moi, je trouve quand même, puis ça a été un petit peu le fil conducteur aujourd'hui, je trouve quand même que s'il y a une chose que la pandémie a amené, c'est que les gens ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dit en temps normal. On a entendu des gens dire je suis en détresse, des gens dire je trouve ça difficile, des gens lancer des appels à l'aide. On n'a jamais autant parlé de santé mentale que depuis le début de la pandémie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas de problème avant, mais ça veut dire qu'on n'en parlait pas ou qu'on le mettait en dessous du tapis, alors que là, les gens en parlent et reconnaissent qu'il y a c'est un mal de vivre qu'on a en ce moment. Et je trouve que c'est bien d'en parler, non?
Ouais, puis il y a un peu le côté, je sais pas en français comment on l'appelle, mais the great equalizer. Tout le monde est arrivé un peu, on est tous un peu pareils. Peu importe la classe sociale, on est tous, en général, tu sais, on est tous devant, même les gens glamorous sont devant leur ordi, font un zoom. Tu sais, je veux dire, c'est pas mal le grand égalisateur.
Mais Tom Hanks a eu la COVID, maudite affaire.
Qu'est-ce
Tom Hanks a eu la COVID. Voilà.
Et je pense que ça...
Il est célèbre, il est riche, il est beau et tout, puis il l'a eu.
Je pense même qu'on a vu une Kardashian pas maquillée, imagine!
Non, mais il y a un côté...
Mais ça a duré 45 secondes, peut-être. Voilà.
Mais c'est vrai ce que tu dis quand même, je pense que ça... Il y a ce côté-là, il y a quelques côtés quand même. Puis quand on va aller dans un musée, au cinéma, on va dire « wow », on va aller voir des gens en spectacle, en vrai, on va dire « Wow. Je pense que tout ce qu'on prenait pour acquis, on l'avait tellement facile. On
va embrasser
tout
notre grand-mère qui a mauvaise haleine. On va dire, hey,
je pense que c'est le bon côté de ça.
On l'avait énormément facile pour prendre des choses pour acquis.
Exactement.
Ouais, mais toi, le pessimiste, là, est-ce que tu ne dis pas, 3 mois après, on va tout retomber dans la
même ah, c'est possible. Mais j'espère qu'il y aura un petit peu de ça. Je me rappelle de ça. Rapidement, c'est comme le truc indien. Tu sais, le gars qui va voir le sage indien, puis dans sa maison, il y a... Ils sont 8, puis il y a 2 chambres. Puis ils dorment, toute la famille avec les enfants, puis il va voir le sage du village, puis il dit, vraiment, c'est vraiment pénible, tu sais, j'arrive pas. Puis il dit, est-ce que t'as des animaux devant ta maison? Il dit, oui. T'as de quoi? Des cochons, poulets, tout ça. Bon, il dit, ben là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les mettre dans ta maison. Fait que là, il dit, ben non, ça n'a pas de sens. Il dit, non, fais ça, puis viens me revoir dans 2 semaines. Il dit, non, c'est ridicule, mais... Fait que là, il met dans la maison le poulet, les cochons, puis les 8 qui vivent dans la maison. Puis 2 semaines après, ils vont voir le sage puis ils disent « T'avais raison, c'était formidable ma vie avant.
» C'est très drôle.
Everything is perspective.
Mais c'est vrai.
Everything is perspective.
Exact. Moi, je pense que si
c'est
un jour...
La pandémie, c'est ça.
Ouais. Si on fait un jour un film sur la pandémie, ça devrait s'appeler « Nous ne savions pas que nous étions heureux.
» C'est bon. C'est bon titre. Très bon titre. «
Nous ne savions pas que nous étions heureux.
» On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en claquant la porte. Il y a pas une...
Et ce n'est qu'une fois l'arbre abattu qu'on peut en mesurer la grandeur.
On a une série lourde.
Merci.
Hey, c'est la première fois qu'on applaudit à la fin de
l'année. Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.